Aristote, Politique, livre 6, chapitre 11. Sommaire. Théorie des trois pouvoirs dans chaque espèce de gouvernement. Législatif, ou l'Assemblée générale, exécutif, ou les magistrats, et judiciaire, ou les tribunaux. Organisation du pouvoir législatif. Ces nuances diverses dans la démocratie, dans l'oligarchie. Des sentences judiciaires laissées à la décision de l'Assemblée générale. Vice du système actuel. Paragraphe 1. Reprenons maintenant l'étude de tous ces gouvernements en masse et un à un, en remontant pour ce qui va suivre aux principes mêmes sur lesquels tous les gouvernements reposent. Dans tout État, il est trois parties dont le législateur, s'il est sage, s'occupera. Par-dessus tout, à bien régler les intérêts. Ces trois parties, une fois bien organisées, l'État tout entier est nécessairement bien organisé lui-même. Et les États ne peuvent différer réellement que par l'organisation différente de ces trois éléments. Le premier de ces trois objets, c'est l'Assemblée générale délibérant sur les affaires publiques. Le second, c'est le corps des magistrats dont il faut régler la nature, les attributions et le mode de nomination. Le troisième, c'est le corps judiciaire. Paragraphe 2. L'Assemblée générale décide souverainement de la paix et de la guerre, de la conclusion et de la rupture des traités. Elle fait les lois, prononce la peine de mort, l'exil, la confiscation et reçoit les comptes des magistrats. Il faut ici, nécessairement, prendre un des deux partis suivants ou laisser toutes les décisions au corps politique tout entier ou les attribuer toutes à une minorité, par exemple à une ou plusieurs magistratures spéciales, ou bien les partager et attribuer celles-ci à tous les citoyens, celles-là à quelques-uns seulement. Paragraphe 3. L'attribution générale est de principe démocratique, car la démocratie recherche surtout ce genre d'égalité. Mais il se présente ici plusieurs manières d'admettre l'universalité des citoyens à la jouissance des droits de l'Assemblée publique. D'abord, ils peuvent délibérer par section, comme dans la République de Téléclès de Milet, et non point en masse. Souvent, toutes les magistratures se réunissent pour délibérer, mais comme elles sont temporaires, tous les citoyens y arrivent à tour de rôle, jusqu'à ce que toutes les tribus et les fractions les plus petites de la cité y aient successivement passé. Le corps entier des citoyens ne se réunit alors que pour sanctionner les lois, régler les affaires relatives au gouvernement lui-même et entendre promulguer les décrets des magistrats. Paragraphe 4. On peut, en second lieu, tout en admettant la réunion en masse, ne la provoquer que dans les cas suivants. L'élection des magistrats, la sanction législative, la paix ou la guerre et les comptes publics. On abandonne alors le reste des affaires aux magistratures spéciales, dont les membres sont d'ailleurs ou électifs, ou désigné par le sort sur l'universalité des citoyens. On peut aussi, en conservant l'Assemblée générale pour l'élection des magistratures ordinaires, pour les comptes publics, pour la paix ou les alliances, ne laisser les autres affaires, où l'expérience et les lumières sont indispensables, qu'à des magistrats spécialement choisis pour en connaître. Paragraphe 5. Reste enfin un quatrième mode, où l'Assemblée générale a toutes les attributions sans exception, et où les magistrats, ne pouvant rien décider souverainement, n'ont que la proposition des lois. C'est là le dernier degré de la démagogie, telle qu'elle existe de nos jours, correspondant, comme nous l'avons dit, à l'oligarchie violente et à la monarchie tyrannique. Ces quatre modes possibles d'assemblée générale sont tous démocratiques. Paragraphe 6. Dans l'oligarchie, la décision de toutes les affaires est confiée à une minorité. Et ce système admet aussi plusieurs nuances. Si le sens est fort modéré et qu'un assez grand nombre de citoyens puissent, par cette modicité même, y atteindre, si l'on respecte religieusement les lois sans jamais les violer, et que tout individu payant le sens est part au pouvoir, l'institution est bien toujours oligarchique dans son principe. Mais, par la douceur des formes, elle devient républicaine. Si, au contraire, tous les citoyens ne peuvent pas prendre part aux délibérations, mais que tous les magistrats soient élus et observent les lois, le gouvernement est oligarchique comme le premier. Mais si la minorité, maîtresse souveraine des affaires générales, se recrute elle seule et par voie d'hérédité, et si elle est au-dessus des lois, c'est nécessairement le dernier terme de l'oligarchie. Paragraphe 7. Quand la décision de certains objets, tels que la paix et la guerre, est remise à quelques magistrats, le droit d'entendre les comptes généraux de l'État étant laissé à la masse des citoyens, et que ces magistrats ont la décision des autres affaires, étant d'ailleurs électifs ou désignés par le sort, le gouvernement est aristocratique ou républicain. Si l'on a recours à l'élection pour certaines affaires et pour quelques autres à la voix du sort, soit sur la masse, soit sur une liste de candidats, ou bien si l'élection et le sort s'appliquent à l'universalité des citoyens, le système est en partie républicain et aristocratique, et en partie purement républicain. Telles sont toutes les modifications que peut recevoir l'organisation du corps délibérant. Et chaque gouvernement l'organise selon les conditions que nous venons d'indiquer. Paragraphe 8. Dans la démocratie, et surtout dans ce genre de démocratie qu'on croit aujourd'hui digne de ce nom, à plus juste titre que toutes les autres. En d'autres termes, dans la démocratie où la volonté du peuple est au-dessus de tout, même des lois, il serait bon, dans l'intérêt des délibérations, d'adopter le système des oligarchies pour les tribunaux. L'oligarchie se sert de l'amende pour forcer de venir au tribunal ceux dont la présence lui semble y être nécessaire. La démocratie, qui donne une indemnité aux pauvres pour les fonctions judiciaires, devrait suivre aussi la même méthode pour les assemblées générales. La délibération ne peut que gagner à ce que tous les citoyens en masse y prennent part. La foule s'éclairant des lumières des gens distingués et ceux-ci profitant des instincts de la foule. On pourrait encore, avec avantage, prendre un nombre égal de votants de part et d'autre, en procédant à leur désignation par l'élection ou par le sort. Enfin, dans le cas où le peuple l'emporterait excessivement en nombre sur les hommes politiquement capables, on pourrait accorder l'indemnité non à tous, mais seulement à autant de pauvres qu'il y aurait de riches, et éliminer tout le reste. Paragraphe 9. Dans le système oligarchique, il faut ou choisir à l'avance quelques individus dans la masse, ou constituer une magistrature, qui, du reste, existe déjà dans quelques États, et dont les membres se nomment commissaires et gardiens des lois. L'Assemblée publique ne s'occupe alors que des objets préparés par ces magistrats. C'est un moyen de donner à la masse voix délibérative dans les affaires sans qu'elle puisse en rien porter atteinte à la Constitution. Il est possible encore de n'accorder au peuple que le droit de sanctionner ainsi les décrets qui lui sont présentés, sans qu'il puisse jamais décider en sens contraire. Enfin, l'on peut accorder à la masse voix consultative en laissant la décision suprême aux magistrats. Paragraphe 10. Quant aux condamnations, il faut prendre le contre-pied de l'usage maintenant adopté dans les républiques. La décision du peuple doit être souveraine quand il absout. Elle ne doit pas l'être quand il condamne. Et il faut, dans ce dernier cas, en référer aux magistrats. Le système actuel est détestable. La minorité peut souverainement absoudre, mais quand elle condamne, elle abdique sa souveraineté et a toujours soin d'en référer au jugement du peuple entier. Paragraphe 11. Je m'arrête ici en ce qui concerne le corps délibérant, c'est-à-dire le véritable souverain de l'État.